Voilà, bonsoir à tous. Vous allez bien ? Moi, je vais bien. Je suis content d'être là. Vraiment, c'est vraiment une joie pour moi de me retrouver ce soir parmi vous. Comme je disais au pasteur Joël, ici, c'est la famille. Je me sens chez moi, si vous le permettez. J'ai la joie de retrouver mon frère et ami dans le service, et puis surtout de retrouver cette église que j'aime beaucoup, et des frères et sœurs avec qui j'ai eu l'occasion de partir en Israël. Je vais d'abord me présenter, peut-être certains ne me connaissent pas. Alors, je m'appelle Willy Annoné, je suis un papa de deux enfants, je suis marié à Gladys. Nous avons deux enfants, Kijlian qui a 13 ans et Eliona qui a 6 ans. Donc 13 ans et 6 ans, nous avons vécu, pour ma part, j'ai passé un temps de formation en Israël pendant 6 années à la faculté de théologie à Jérusalem avec le pasteur Jacques Elbaz, où j'ai étudié, j'ai pris un temps de formation pour apprendre à mieux connaître Dieu, pour mieux le servir. C'était vraiment ma motivation. Je n'étais pas parti pour 6 années, j'étais parti pour 3 ans. Et Dieu a permis que j'aille encore plus loin, j'aille jusqu'au master. Et puis ensuite, j'ai commencé ma formation pastorale en parallèle avec la formation théologique. Donc 2 ans avec le pasteur Jacques Elbaz, c'était mon premier formateur. Et puis une fois que l'aventure Israël s'était terminée, on va dire de manière brève, j'ai poursuivi à Marseille, à La Rose, dans le 13e, en collaboration avec le pasteur Thierry Fernandez. Donc j'ai passé 4 ans à Marseille. Et puis après Marseille, nous étions bien, ma femme, mes enfants et moi, on commençait à apprendre le poids et la mesure de l'église. Avec Thierry, on commençait à prendre nos marques, à avoir une bonne collaboration. Et puis Dieu nous a dit, écoutez, maintenant c'est le moment de partir. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on écoute ? Est-ce qu'on regarde à son confort ? On regarde aux besoins. On n'a pas regardé à notre confort et au fait qu'on travaillait bien, on était en symbiose avec le frère. Mais on a voulu être là où Dieu nous voulait et on a répondu à l'appel de Dieu. C'est un sacré challenge, je vous avoue, parce qu'à La Rose, à Marseille, nous étions sur une église, à peu près 250 personnes, un seul lieu de culte, alors que la mission qui m'était proposée, c'est de me retrouver à gérer 2 églises, peut-être pas de la même taille, mais sur 2 sites différents avec 40 km d'intervalle. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on n'y va pas ? Si on regarde à soi-même, on n'y va pas. Parce que pour une première expérience seule, ce n'est peut-être pas l'idéal. D'un point de vue humain, je dis bien d'un point de vue humain, mais c'est la formation de Dieu. Hein. Et on s'est dit, ma femme et moi, si Dieu nous appelle là-bas, c'est qu'il nous a donné tout ce dont on a besoin pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc on a répondu à l'appel, et puis depuis 2 ans, bientôt 2 ans maintenant, nous servons Dieu là-bas, à l'église de Digne, les bains, et sisterons. Hein. Nous avons la joie de servir Dieu là-bas. À travers, je partage avec un frère ce soir, à travers ce que nous vivons, nous avons ce désir de laisser Dieu nous façonner à l'image du Maître, hein, à l'image de Jésus, son caractère. Et à travers ce qu'on vit là-bas, ce n'est pas toujours simple. Les défis sont nombreux, mais nous aimons cela, parce qu'à travers cela, nous voyons la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu et l'amour de Dieu. Hein. Voilà, donc juste cette petite parenthèse pour vous parler un petit peu de ce que nous faisons, qui nous sommes, qui je suis. J'ai eu l'occasion de faire 2 voyages en Israël et les frères et sœurs de Istres ont fait partie de l'un de ces voyages et je crois que ce n'est pas la dernière. On en aura d'autres. Je suis en train de préparer un autre voyage, donc vous serez informés en temps et en heure et je serai ravi de vous compter parmi ces personnes qui repartiront avec moi dans le cadre de ce voyage. Que Dieu soit béni. Ce soir, quand le pasteur Joël m'a dit « Willy, est-ce que tu peux venir pour apporter la parole ce soir ?» C'est toujours, frères et sœurs, quelque chose qui n'est pas toujours simple. Parce qu'on se dit « Seigneur, mais le tout, ce n'est pas de prêcher pour prêcher, mais c'est de pouvoir apporter une parole à propos. » Et là, c'est plus difficile de se dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Quel encouragement tu vas apporter au peuple ?» Et frères et sœurs, j'apprends à Digne, à Sisteron, parce que Sisteron, c'est une petite église qui commence à se développer. On est en train de structurer l'église. Et j'apprends à prêcher qu'il y ait 4 personnes en face de moi, 5 personnes, comme s'il y en avait 50, 60 personnes. Et je dis, Seigneur, les besoins sont les mêmes. Qu'il y ait 2 ou 3 personnes, ou qu'il y ait 20 ou 30, les besoins sont les mêmes. Et ce qui est important, c'est que ta parole puisse trouver un terrain favorable. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux pouvoir dire à mes frères et mes sœurs ce soir? Comment je peux pouvoir les encourager? Et je vais donner une pensée, une parole précise pour chacun ce soir. On va, si vous voulez bien, à la fin, un petit tour dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans la première alliance. Je préfère dire la première alliance que Dieu va donner à Moïse. On va voir dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, dans la Lamentation de Jérémie, dans le livre des prophètes. On va voir Lamentation chapitre 3, versets 17 à 26. On va lire ce passage ensemble, si vous voulez bien. Lamentation 3, 17 à 26. C'est Jérémie qui parle et il s'exprime en ces termes. Il dira, « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. » Et j'ai dit, « Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, dira-t-il, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il dira, « Elle est abattue. » au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais Jérémie dira, elles se renouvellent chaque matin. Il dira comme une exclamation, « Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage. » dit mon âme, et c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Père, je te bénis pour cette parole que tu vas nous donner de partager ce soir ensemble. Ma prière, c'est que tu ouvres nos oreilles, tu disposes nos cœurs, tu nous donnes d'être attentifs à ce que tu veux nous dire ce soir. Je prie que cette parole que tu m'as mise sous mon cœur, que tu me donnes la simplicité du langage. Je puisse prendre le temps de le délivrer, ce message, et que personne ne reparte à vide ce soir. Telle est ma prière, que je te formule dans le nom de Jésus. Que chacun se sente ce soir encouragé, édifié par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce soir, ce sont les paroles du prophète Jérémie. Est-ce qu'il est nécessaire de le présenter? Oui. Jérémie, c'était un jeune, un homme de Dieu, un homme qui, à un moment donné de sa vie, a voulu fuir l'appel de Dieu. Mais c'est un homme que Dieu, la Bible dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5, que Dieu le connaissait déjà dans le ventre de sa mère. Avant même qu'il ait été formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Et à travers ce passage, on réalise que, frères et sœurs, on n'est pas le fruit du hasard. Dieu nous connaissait déjà dans le ventre de notre mère. Et il savait déjà à quoi il nous appelait. Et Jérémie, même si à un moment donné, en grandissant, il dira, « Seigneur, je ne suis pas capable. » Mais Dieu le connaissait déjà. Et Dieu va choisir Jérémie et va le mettre à part pour son service. Jérémie, ce n'était pas un prophète autoproclamé en disant, « Moi, je vais être prophète de l'Éternel. » Non, au contraire, lui, il fuyait l'appel de Dieu parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Mais Dieu lui dira, « Jérémie, je te connais. J'ai des projets sur ta vie. Je ferai de toi mon porte-parole. Je mettrai mes paroles, mes mots dans ta bouche. Et tu suffiras simplement d'ouvrir la bouche et de parler de ma part. » Mes amis, mes frères et mes sœurs, quel message que Dieu mettra dans sa bouche? Dès son plus jeune âge, Jérémie aura pour mission de prêcher la repentance. Un message que ses contemporains n'aimaient pas entendre. Un message qui va dispenser à des hommes et des femmes qui ont connu Dieu et qui, dangereusement, se sont éloignés de Dieu. Leur cœur s'est éloigné de Dieu. Ils avaient une apparence de piété, mais finalement, mes amis, le cœur était loin de Dieu. Que Dieu nous garde de cela. De parler de Dieu, nous ayons le nom du Seigneur dans la bouche et que notre cœur soit éloigné de lui. Et Jérémie va prêcher la repentance, mais personne ne va écouter son message. Et vous savez, la repentance, c'est un message qu'on n'aime pas trop. Ça dérange. Dès qu'il est question de dire, change ta manière de vivre. Conforme ta vie à ce que la parole de Dieu te demande. Eh bien, parfois, on dit non. J'aime le Seigneur, mais j'aime bien le compromis. J'aime le Seigneur, mais j'aime bien cette pratique. Mais Jérémie dira à ses contemporains, mes amis, non. Soit c'est Dieu, ou soit on n'est pas avec lui. Et finalement, les gens ne vont pas écouter son message parce que c'est un message qui dérangeait. Et au lieu de l'écouter, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va commencer à se moquer de lui. Au verset 14 de notre livre, chapitre 3 toujours, il dira ceci, « Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. » Frères et sœurs, rappelons-nous lorsque nous étions à l'école. Est-ce que nous aimions que les amis ne se moquaient de nous, hein? Et souvent, lorsqu'on est petit, lorsqu'on est gamin, on est souvent méchant, n'est-ce pas, hein? Dès que l'autre a quelque chose qui va moins bien, on se moque de lui. Et ce n'est pas agréable lorsqu'on se moque de nous, lorsqu'on nous pointe du doigt. Et Jérémie, c'était son cas. Non seulement les gens ne l'écoutaient pas, mais il était l'objet de moqueries. Et à longueur de journée, dira le texte, il dira « Je suis l'objet de leurs chansons ». On poussait des chansonnades sur la vie de Jérémie. Non seulement pour le message qu'il apportait, mais pour ce qu'il était. Pour sa foi, sa confiance. « Jérémie, tu es dépassé. Ta foi, on n'en veut pas. On n'en veut plus. Laisse-nous faire ce qu'on a envie de faire, quand on le souhaite. » Et Jérémie va expérimenter quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup, frères et sœurs. Hein. La solitude. Peut-être qu'il y avait sa famille autour, hein. Et parfois, on peut avoir du monde autour, hein, pasteur, hein, mes frères et mes sœurs, on peut avoir du monde autour et se sentir seul. N'est-ce pas? Ce n'est pas le nombre qui va faire qu'on ne se sente pas seul ou pas. Mais la solitude, c'est quelque chose de pesant. Et Jérémie va expérimenter la solitude. Il va se retrouver seul, souvent dans un contexte d'adversité, de persécution, mais souvent, il sera menacé à mort. Sa vie sera menacée. Et il n'a rien demandé à Dieu. Il voulait vivre une vie de jeune tranquille. Mais Dieu le choisit. Il va vivre ces choses. Et frères et sœurs, il y a des moments où je me retrouve dans la vie de Jérémie. Je me dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, que chrétien, de disciple, parfois, il y a des moments où ça va bien. On est sous la montagne. Et puis il y a des moments où on connaît la vague, la vallée. On est dans le creux. Des moments de découragement. Mais Jérémie, il va connaître des moments difficiles. Il y a dans la vie des moments plus difficiles que d'autres, n'est-ce pas? Et Jérémie, ce sera son cas. Dans sa vie, Jérémie va se retrouver à des moments les plus sombres de sa vie, où il va devoir faire face, non seulement, frères et sœurs, au découragement, mais Jérémie va devoir lutter aussi contre un autre aspect qui est le doute. Et c'est en cela que je dis que Jérémie, je m'identifie à sa vie. Parfois, frères et sœurs, je me rappelle qu'il y a dans ma vie, en tant qu'enfant de Dieu, même si j'aime le Seigneur de tout mon cœur, mais parfois, je dois me rendre compte, à l'évidence, il y a des moments de découragement. Où la marche, elle est plus difficile que d'autres, par moments. Lui va devoir faire face au découragement et au doute. Et mes frères et mes sœurs, quel adversaire qu'est le doute? Quelle montagne qu'est le découragement? Mais le prophète, dans sa situation, était dans une grande détresse, et notamment sur le plan moral, mais surtout, surtout sur le plan spirituel. Sa souffrance était palpable. Et lorsqu'on lit ce texte, on voit un homme qui est en souffrance. Il avait le sentiment, frères et sœurs, que Dieu l'avait abandonné. Et je me dis, Seigneur, il n'y a pas pire que ce sentiment. D'avoir l'impression, hein, je dis bien avoir l'impression, parce que Dieu ne l'a pas abandonné. Hein. Mais dans sa situation, frères et sœurs, il a le sentiment que Dieu l'a laissé tomber, que Dieu l'a abandonné. Dieu lui enlève sa paix. La paix qu'il a connue à ses débuts. Il a l'impression que cette paix, elle lui a été retirée. Il a l'impression que le bonheur lui échappe entre les mains. Il ne connaît plus ce que c'est que d'être heureux. Et Jérémie va commencer à se lamenter, à s'apitoyer sur son sort. Et frères et sœurs, tout comme lui, hein, on peut se dire, Seigneur, mais nous aussi, parfois, on connaît des temps comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas Dieu. Hein. Ça veut dire simplement que la situation nous dépasse. On a l'impression qu'elle dépasse nos propres forces, qu'on est sans ressources et que parfois, on se dit, mais est-ce que Dieu, il est réellement là? Seigneur, est-ce que tu es réellement là? Je ne t'entends plus. Je ne te vois plus. Mais Jérémie va se lamenter. Et il va crier sa misère à Dieu. Comme il peut. Il va crier son désarroi. Il dira ceci. Il dira à Dieu, ma force est perdue. Et Jérémie va se retrouver sans force. Et peut-être ce soir, on peut dire, oui, Willy, pasteur, parfois, comme Jérémie, j'étais sans force. Et peut-être que ce soir aussi, je suis sans force. Je suis là, mais j'ai du mal à marcher. J'ai du mal à avancer. Et je me suis posé la question simplement, mais c'était quoi sa force? Et je vous pose cette question. D'après vous, frères et sœurs, on est là entre nous, hein? D'après vous, c'était quoi la force de Jérémie? Pourquoi il dit que sa force l'a perdue? C'était quoi cette force dont il parle? Dites-moi. C'était quoi cette force? La force de Dieu, oui, la force de Dieu. Mais encore, dites-moi, participe avec moi. C'était quoi sa force? Son esprit, oui, on peut dire ça. L'esprit de Dieu, oui, qui l'accompagnait jusque-là. Il a l'impression que l'esprit de Dieu s'est retiré. Il n'a plus cette force que l'esprit de Dieu procure en nous. C'est vrai, on peut dire ça. D'autres encore, exprimez-vous, frères et sœurs. N'ayez pas peur. Sa foi, oui. Mais c'est quoi la foi finalement? Dites-moi. Quand on dit j'ai la foi en Dieu, qu'est-ce qu'on dit? J'entends pas. J'ai confiance. C'est ça. Les réponses que vous avez données, elles sont justes, elles sont bonnes. Mais je pense que la force dont Jérémie parle ce soir, c'était cette confiance qu'il avait en son Dieu. Et qu'on a l'impression que dans la circonstance dans laquelle il se trouve, cette confiance vient à s'effriter petit à petit. La confiance qu'il avait totalement en son Dieu, on a l'impression que cette confiance commence à petit à petit, plus la situation perdure et plus cette confiance est en train de partir, comme la force qui s'en va. Et il dira même dans cette situation, je n'ai plus d'avenir, son avenir s'assombrit. En voilà un homme qui avait de l'espérance. Dieu dira qu'il a de l'espérance pour lui. Un avenir plein d'espérance, mais là Jérémie voit que du noir. Il boit que du noir. Et mes amis, là, ça c'est le signe d'une grosse dépression. Une dépression sévère, aiguë. Et Jérémie est là en train de vivre une dépression aiguë. Et ce qui est important, frères et sœurs, c'est que dans la situation dans laquelle on se trouve, parfois les situations nous déforment la réalité. Et je vais croire que ce soir, c'est ce que Jérémie est en train de vivre. Dans sa situation, tellement c'est intense, tellement c'est fort, ça déforme la réalité des choses. Et Jérémie est entré dans sa lecture de la situation, il a une perception des choses qui est toute fausse. Et Jérémie n'a plus raison de regarder à l'avenir avec sérénité. Et si bien qu'il arrive à un point, à un stade, à se dire, mais finalement, je n'ai plus rien à attendre de l'Éternel. L'espérance que j'avais eue dans mon Seigneur s'est évanouie. Frères et mes sœurs, il n'y a pas qu'à Jérémie que c'est arrivé. Il n'y a pas qu'à Jérémie que ça va arriver. Il dira au verset 19 et 20, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe ou au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et son âme est dans l'amertume. Il ne se sent pas bien, comme un poison qui est en train de l'affecter et de le tuer petit à petit. Il va se retrouver dans un gouffre. Et frères et sœurs, je vous invite ce soir avec moi, on va rejoindre Jérémie dans ce gouffre. On a l'impression que plus il descend, et plus il descend encore. Il descend. Une descente sans fin. Et finalement, il va se retrouver au fond du trou. Dans le fond du trou. Dans le gouffre dans lequel il se trouve, Jérémie a de quoi être abattu. Et je me dis que j'ai pris cette histoire ce soir, frères et sœurs, pour nous montrer que c'est un homme de Dieu, un homme qui aimait Dieu et qui a connu des temps difficiles. Et il n'y a pas de honte en tant qu'enfant de Dieu, de disciple de Jésus, de passer par des temps difficiles. On n'a pas de honte à avoir. J'ai l'exemple de cette jeune sœur qui m'appelle, elle a juste 16 ans. 16 ans et elle est anorexique. Elle est placée dans un foyer, dans un village. Elle n'a pas ses parents. Elle vit avec des éducateurs. Et cette jeune fille de 16 ans, elle ne mange plus. Et lorsqu'elle mange, elle a l'impression qu'elle mange de trop. Elle rejette ce qu'elle a mangé. Elle reste constamment dans le noir parce qu'elle n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Et je me dis qu'il n'y a pas d'âge pour être malheureux. Il n'y a pas d'âge pour souffrir. Et Dieu met là-haut, dans les Alpes, tellement de situations, frères et sœurs, qui sont, je pense aussi ici, hein, mais je me dis, mais à 13 ans, à 12 ans, à 5 ans, les enfants, ils souffrent déjà. Ils n'ont pas été gâtés par la vie. Une jeune fille de 13 ans qui À l'âge de 8 ans, elle a perdu son papa. Il s'est suicidé. Et 2 ans après, sa mère meurt d'un cancer. Oh! Il y a des situations où des gens, ils n'ont rien demandé, mais la vie ne leur fait pas de cadeau. Mais cette jeune fille de 13 ans, du haut de ses 13 ans, elle a expérimenté Jésus. Et sa foi lui donne de tenir bon. Cette jeune fille de 16 ans, et malgré ce qu'elle traverse, cette dépression, elle a conscience que Dieu est celui dont elle a besoin. Et frères et sœurs, je veux croire qu'ici, dans ce lieu, il y a des gens qui vont bien. Il y a des gens qui vont moins bien. Et c'est le propre de toutes les églises. On peut aller bien aujourd'hui, puis demain, on va moins bien. Mais ce qui est important de retenir ce soir, c'est que dans sa situation, Jérémie, son oppression et sa douleur déforment la réalité de ce qu'il vit. Et Dieu n'a jamais cessé d'être présent avec lui. Toujours il a été là. Mais dans son gouffre, dans sa situation, il se sent abattu et découragé. Car la situation, elle est triste, elle est malheureuse. Mais il y a un mais, frères et sœurs. Et ce mais fait toute la différence. La suite des versets nous laisse imaginer qu'il s'est passé quelque chose. Il y aura là, comme dans l'histoire, un déclic. Il y aura là comme un miracle qui va avoir lieu. Alléluia. Et quand je lis cette histoire, je sens qu'il y a à un moment donné, Jérémie descend, il descend, il descend, il descend, et paf, il ne peut plus aller plus bas. Il a touché le fond. Et là, il va se passer un temps. Un temps. Mais là, on a l'impression qu'il va pas rester. Il a le choix de rester comme il est dans cette situation ou de repartir, de rebondir. Regardez ce qu'il va dire au verset 21. Même avant, Jérémie va prendre conscience. On peut le passer, ce passage 21. Il dira ceci. Je réponds ceci à mon cœur. Je veux repasser ceci dans mon cœur. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me nourra de l'espérance. On s'arrête là. Verset 21. Est-ce qu'on peut la... Voilà. Voilà ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et on voit que dans cette situation, frères et sœurs, Jérémie va prendre conscience. Il va réaliser que c'était une erreur que d'en vouloir à Dieu. Et frères et sœurs, c'est toujours une erreur que d'en vouloir à Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est toujours une erreur que d'en vouloir à Dieu. Dieu n'est pas l'objet de mon malheur. Dieu n'est pas l'objet de mes souffrances. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et Jérémie va réaliser que c'était une erreur que d'en vouloir à Dieu. Il a le choix de rester dans les larmes et les gémissements ou de détourner ses regards de sa souffrance. Il a un double choix. Soit je suis dans les larmes, dans les pleurs, je me lamente, je m'apitoie sous mon sort, ou soit j'ai l'autre choix de détourner mes regards de ce que je vis, de la montagne qui est là, de la vallée qui est là, de mes souffrances. Et je détourne mes regards de cela et je le place tout à nouveau sur le Seigneur, sur son Dieu, qui dans la réalité ne l'avait jamais, jamais, jamais abandonné et qui était celui qui marchait toujours à ses côtés. Mes amis, là, il n'y a pas eu de pasteur. Il n'y a pas eu d'autres apôtres. Il n'y en avait pas à l'époque. Il n'y a pas eu d'autres prophètes. C'est Jérémie avec lui-même. Et là, ce soir, je voudrais vous donner une clé. Souvent, on entend, on compte sur le pasteur. Mais là, Jérémie, il était tout seul. Il a un choix à faire, une décision à prendre. Est-ce que je continue à pleurer? Il y a des raisons de pleurer. Le découragement est là, le doute est là, la douleur elle est là. C'est vrai tout ça. Mais j'ai le choix de me laisser dépasser par la situation ou au contraire de me dire ça suffit. Ça suffit. Je détourne mon regard de ma situation, de ce qui me fait mal. Et souvent, frères et sœurs, d'avoir les regards sur ce qui nous fait mal, ça nous empêche de voir que Dieu est là. Mais Jérémie aura ce choix de placer à nouveau le regard sur son Dieu qu'il n'avait jamais abandonné. Et mon frère, ma sœur, ce soir, j'aimerais te dire que même le silence de Dieu peut paraître pesant par moments. mais Dieu n'a jamais cessé d'être présent à ses côtés. C'est la douleur, l'incompréhension et la souffrance de Jérémie qui vont lui faire perdre de vue cette réalité. Et mon frère, ma soeur, réalisons cela ce soir. Parfois, bien souvent, c'est l'intensité de nos douleurs, hein, pasteur Joël. C'est souvent, la situation est tellement compliquée qu'elle nous voile, elle nous empêche de voir que Dieu n'a jamais cessé d'être là avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Il dira, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Il y a tant de raisons, frères et sœurs, de se lamenter. Tant de raisons de se laisser submerger par le découragement. Tant de motifs de découragement. Hein? Et ce soir, vous pouvez me dire, mes frères, tu ne sais pas ce que je vis. D'accord, peut-être, je te dirai. Mais ce soir, je voudrais te dire que ce que Jérémie a vécu, c'était sa situation. On ne peut pas comparer les situations. Mais ce que je sais, c'est que lui, il était découragé. Et lui, il était au bout de sa vie. Il réclamait peut-être même la mort. Et c'est ça que je veux mettre en lumière ce soir. Lorsqu'on est à bout, lorsqu'on est au bout du bout, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à pleurer, à se lamenter? Au contraire, on place à nouveau nos regards sous le Seigneur. Il y a tant de raisons, frères et sœurs. On peut commencer un service pour Dieu, hein, dans l'église de Dieu, et puis finalement, en face de la difficulté, finalement, même à cause des moqueries, hein, dans le service, on a envie de tout arrêter. Frères et sœurs, lorsqu'on sert Dieu, on sépare le pasteur. On sépare un frère et une sœur. On sert Dieu. Lorsque je m'engage dans un service, je le fais comme pour le Seigneur. Avant de le faire pour le pasteur ou pour quiconque, je le fais comme pour le Seigneur. Et même si le pasteur ne me dit pas assez bien, je continue à le faire, je le fais comme pour le Seigneur. Et même s'il y a des moqueries, je continue à le faire, je le fais comme pour le Seigneur. Peut-être que ce soir, on connaît des couples qui n'arrivent plus à s'aimer. Ça arrive aussi, hein. Des couples qui n'arrivent plus à se supporter. Et des enfants qui n'arrivent plus à supporter les parents. Ou les parents qui n'arrivent plus à supporter les enfants. Chacun se plaint de l'autre. On ne parvient pas à surmonter les difficultés. On a envie de tout arrêter. Et frères et sœurs, il y a tant d'autres situations dans la vie qui créent de l'amertume dans l'âme et qui nous font douter de la fidélité de Dieu. Des situations qui nous font douter de l'amour de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Mais Jérémie dira, lorsqu'il est au fond du trou, il a les deux genoux à terre, il dira, voilà ce que je veux repasser dans mon âme. Mes amis, Jérémie va prendre son âme, il va le mettre assis en face de lui. Il va lui dire, comme une personne, mon âme, assieds-toi et écoute. Voilà ce que je veux repasser dans mon âme, dans mon cœur. Jérémie va exprimer un désir, une volonté. Et c'est personne d'autre qui le fera à sa place. Il va faire le choix, lui et lui seul, de revenir à de meilleurs sentiments. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi ce soir? C'est personne d'autre qui va le faire à sa place. Il va prendre son âme, il va dire, mon âme, assieds-toi en face de moi, j'ai à te parler. Oui, c'est vrai. Quand il regarde à sa détresse, à sa misère, il est complètement découragé. Il n'a plus d'espoir en l'avenir, c'est vrai. Mais il est conscient également, en parallèle, qu'il y a des souvenirs qui sont enfouis. Il y a des choses qu'il savait de la parole de Dieu, mais qui étaient enfouies. Parce que la situation l'empêchait de réaliser ces choses, ces vérités. Des vérités cachées qu'il savait de la parole de Dieu. Il y avait des vérités bibliques, des réalités qui étaient enfouies au-dedans de lui et qui, dans cet instant présent, précis, qui veut ramener à son cœur et à son esprit. Jérémie est là comme dans un déclic. « Seigneur, c'est vrai, ça me fait mal, je ne comprends pas par quoi je passe. Je ne comprends pas toujours tes choix pour ma vie, Seigneur. Mais il y a des choses que je sais de toi qui sont inébranlables, inaltérables, qui sont fermes, et qui sont sûrs. Des vérités que je savais de toi, que je vais toujours me rappeler. Et Jérémie veut se rappeler, veut ramener à sa conscience des éléments qui vont lui redonner de prendre courage. Et frères et sœurs, souvent la clé, elle est en nous, dans la semence que Dieu a semée en nous. On entend souvent de l'aide du pasteur, il est là, le pasteur est là pour nous aider, l'ancien est là pour nous aider. Mais là, dans Jérémie, dans sa situation, on voit que ça vient de lui. Les vérités de la parole de Dieu étaient inscrites dans son cœur. Et c'est à lui de les faire revenir à la surface. il doit le ramener à la conscience. Ces vérités qui vont lui redonner de prendre courage et de retrouver de l'espoir, lui donner de l'espérance. Et Jérémie n'a pas tout oublié. Et dans sa situation, il va dire ceci au verset 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y avait des vérités qu'il savait, mes frères et mes sœurs. Et il savait que les bontés de son Dieu ne sont pas épuisées. Il savait avec certitude que ses compassions ne sont pas à leur terme. Et ces vérités, il les savait déjà, frères et sœurs. Mais dans sa situation, il avait perdu de vue la chose. Et je me dis, comme Jérémie, ça peut être mon cas aussi. Dans ce que je traverse, la maladie, je perds mon emploi, je perds mon travail, mes enfants me tournent le dos. Tant de situations, frères et sœurs, chaotiques. Et qui nous donnent d'oublier des vérités qu'on sait de la parole de Dieu. Mais il dira non, comme dira Chouaki, les chérissements d'Adonai ne sont pas finis. Non, ses matrices ne sont pas épuisées. Hein? Et il est question dans ce mot, il y a un mot en hébreu qui est intéressant à connaître, c'est le mot chesed. Le chesed d'Adonai. Et forcément, lorsqu'on prend un mot en hébreu, on le traduit en français, ben, ça, c'est réducteur un peu. Et le mot chesed, on l'a traduit par grâce. Dans certaines versions, il est question de faveur. D'autres versions, il est question de chérissement. J'aime beaucoup ce mot de Chouraki qui dit chérissement. Et mes frères et mes sœurs, le chesed, c'est beaucoup plus que ça. Dans le chesed, il y a l'amour de Dieu. Dans le chesed, il y a la compassion de Dieu. Dans le chesed, il y a la miséricorde de Dieu. Il y a la bonté, il y a la faveur de Dieu. Il y a le soutien de Dieu, il y a le secours de Dieu. Alléluia. Et le chesed, c'est tout ce sentiment qu'on retrouve dans l'expression « les chérissements de Dieu ». Et Jérémie est en train de réaliser, de confesser, de proclamer à son âme et mon âme. Je te rappelle les choses que tu avais perdues de vue. Que Dieu m'aime toujours autant. Dieu me chérit toujours autant. Ses compassions n'ont pas changé à mon égard. Sa miséricorde n'a pas changé. Et même lorsque je me sens misérable devant Dieu, eh ben, sa compassion demeure toujours de même pour moi. Ses bontés sont toujours les mêmes pour moi. Et l'amour de Dieu traduit en acte, c'est cela qu'on voit dans ce passage, qui se donne et qui n'attend rien en retour. Un amour qui se donne et qui n'attend rien en retour de la part de celui qui l'a manifesté. Un amour désintéressé. Et frères et sœurs, c'est la qualité de cet amour hein, que Jérémie va à nouveau goûter, va redécouvrir. Il va redécouvrir cet amour qu'il avait perdu de vue. Et ce chesed, c'est la qualité, cet amour, cette bonté, cette grâce, cette faveur qui motive une personne à agir pour le bien de l'autre sans penser à l'avantage que cela pourrait lui apporter par la suite. C'est ça qui rappelle à son âme. C'est cet amour, c'est cette qualité, c'est cette compassion qui motive une personne à agir pour le bien de l'autre sans penser à l'avantage que cela pourrait apporter à celui qui l'exprime. Et Jérémie voulait réfléchir, penser à la bonté de Dieu, à son chesed, afin de découvrir ou redécouvrir que ce chesed est quelque chose d'immense, mais surtout il est constant. Et mon frère, ma soeur, ce soir je veux te rappeler que l'amour de Dieu pour toi est constant. Sa faveur, elle est constante envers toi, ta famille et les tiens. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ni personne. Et je me rappelle, j'ai un peu de temps encore ou pas? Je peux y aller ou pas, frères et sœurs? J'ai encore envie de donner des choses ce soir. Je peux y aller ou pas? Ok, je me rappelle Paul qui dira ceci. Paul aussi a connu des temps de découragement. Paul aussi a connu des temps compliqués, temps d'épreuves. On connaît Paul. Mais Paul dira ceci dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Paul qui était l'homme de Dieu, pour moi, dans le Nouveau Testament, c'est un homme remarquable. Il avait son caractère. Mais Dieu va utiliser ce caractère pour sa gloire. Et c'est un homme qui sera un instrument puissant entre les mains de Dieu. C'est un homme, on va voir, on va lire ce passage. Il dira, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et il dira, au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit quoi ? ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que, dira-t-il, la puissance de Dieu, de Christ, repose sur moi. Paul, un homme de Dieu remarquable, durant son ministère, il a fait tant de miracles. Il accomplit tant de guérisons, frères et sœurs. Et puis cet homme aura une écharde dans la chair. Et je me pose la question, on n'est pas là pour savoir si c'est vraiment une écharde sur le plan spirituel ou si c'est quelque chose de véritable. Mais je crois que c'est une écharde sur le plan physique aussi. Parce que lorsqu'il va écrire des lettres, il va dire, regardez avec la grosseur que j'écris. Hein. On a l'impression qu'au niveau de ses yeux, il avait quelque chose qui le dérangeait. Je ferme la parenthèse. Mais ce sens, ce que je voudrais mettre en lumière, c'est que cette écharde représentait quelque chose pour lui de gênant dans sa marche. Une douleur, une épreuve. Et je me dis, mais Willy, mais qu'est-ce que cette écharde pour Dieu? C'est rien du tout. Dieu, à travers lui, a fait des miracles, des guérisons et des prodiges. S'il a un problème à l'œil, je peux le guérir. Qui c'est qui le croit? Dieu peut le délivrer. Dieu n'a pas changé. Mais on s'en rend compte, frères et sœurs, que bien que Jésus pouvait le délivrer de cette épreuve, Paul va prier une première fois. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Oh, Seigneur, oh, je guéris les gens si tu me laisses comme ça. Il est où le témoignage? Eh oui, quelle crédibilité j'aurais, Seigneur. C'est moi qui fais tant de miracles, les gens me voient dans cette situation, qu'est-ce qu'ils vont penser? T'es pas crédible, il est où ton Dieu? Il t'a laissé tomber. Il a prié une deuxième fois, Seigneur, s'il te plaît. Aie pitié de moi. Il aurait pu se décourager, le Paul. Mais continue encore. Allez. Seigneur, je ne te lâche pas, tant que tu m'es béni. On dit ça souvent, hein? Et une troisième fois, il prie. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il dit, Seigneur, délivre-moi de cela. Et cette prière n'aura pas de succès. En apparence, je dis bien. Parce que Dieu va lui répondre. Et sa prière aura du succès. Peut-être pas le succès qu'on voudrait qu'il y ait. Mais elle aura du succès. Dieu va lui dire, va lui faire comprendre qu'il ne va pas lui enlever cette écharde dans la chair. Dieu dit oui, parfois Dieu dit non. Et parfois Dieu te dit ce soir, ma grâce te suffit. C'est aussi une réponse. C'est aussi une réponse. Il dira, ma grâce te suffit. Et la réponse de Dieu sera tout autre que ce que Paul attendait. Et parfois, mes frères, mes sœurs, n'est-ce pas que des fois Dieu nous répond d'une autre manière de ce qu'on voudrait qu'il nous réponde? Mais dans cette prière, dans cette réponse, dans son épreuve, Dieu dira à Paul, « Paul, tu auras besoin que d'une seule chose. » Une seule chose, dira Jésus. Tu auras besoin de mon chesed. » Et maintenant, vous savez c'est quoi le chesed? Il dira, tu auras besoin de mon chesed. Ma grâce te suffit. Et frères et sœurs, ce soir, je voudrais vraiment de la part de Dieu nous dire ceci. Dans cette grâce, il y avait toute la puissance de Dieu. Est-ce que je peux entendre le meilleur des Amen? Dans cette grâce, mon frère, ma sœur, il y a toute la puissance de Dieu. Toute la puissance de Dieu qui donnera à Paul d'être malgré tout dans la joie et dans la paix. Dans son épreuve. Et qui va l'inciter constamment, constamment à se tourner vers le Christ. Son Seigneur et son Sauveur. Cette grâce a le pouvoir de garder. Alléluia! La grâce du Seigneur a ce soir le pouvoir de me garder. La grâce du Seigneur a ce soir le pouvoir de me fortifier et d'amplifier ma foi. Alléluia. Alors finalement, frères et sœurs, la grâce du Seigneur était beaucoup plus que la guérison. Elle était plus que la guérison. Parfois, nous soupirons après la guérison. Je crois et je crois fermement que mon Dieu est le Dieu de la guérison. Je crois que Jésus est le grand Ophée. Je l'ai déjà prêché ici, le grand médecin. Et frères et sœurs, parfois, la grâce du Seigneur, elle nous est préférable qu'à la guérison. C'est dans la grâce du Seigneur et dans ce qu'on vit, on expérimente une dimension de Dieu qu'on n'aura jamais pu expérimenter autrement. Il appartient à Dieu de savoir ce qu'il y a de meilleur et de mieux pour moi, pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est en cela que la grâce du Seigneur Jésus suffisait à Paul, parce qu'elle était capable de le garder dans la foi, de le fortifier et de faire grandir sa foi. Elle était beaucoup plus que la guérison. Et dans cette grâce, il y avait tout ce dont il avait besoin pour faire face à la réalité du quotidien. Et c'est en cela que je dis, Seigneur, ta grâce, elle me suffit. Cette grâce le poussait à se tourner vers le Christ et à s'attendre à lui. Et non pas le contraire, à tourner le dos contre Dieu et à lui dresser le poing. Surtout pas ça, frères et sœurs. Les bontés de l'Éternel travaillent dans le secret et l'invisible pour nous. Les bontés de l'Éternel travaillent dans le secret et l'invisible pour toi et ta famille. Et enfant de Dieu ce soir, les bontés de l'Éternel travaillent dans le secret et l'invisible pour chacun d'entre nous. Et les bontés de l'Éternel travaillent dans le secret pour préparer une solution à chacun de mes besoins, de nos besoins. Elles font concourir, comme dit la parole de Dieu, toutes choses pour notre bien, pour celui qui aime le Seigneur de tout son cœur. Et Jérémie veut se rappeler des compassions de son Dieu, un Dieu rempli de miséricorde qui n'est pas insensible aux cris de la détresse et à la détresse du malheureux. Que dit la parole de Dieu ? Vous qui connaissez la parole de Dieu, Psaume 34, verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit ? On va confesser ensemble la parole de Dieu ce soir. Psaume 34, verset 6, qu'est-ce qu'il dit ? Dites avec moi. Psaume 34, verset 6, on va le lire ensemble. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Peut-être le verset qui précède, peut-être verset 5, ma sœur, si tu peux, on a un live, voilà. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Hein? Là, il le dit, quand un malheureux crie, est-ce que l'Éternel le laisse dans l'abandon? Qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre, il le sauve de toutes. Je n'ai pas dit une partie, j'ai dit toutes. Est-ce que c'est le pasteur qui le dit ce soir? Non, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et mon frère, ma sœur, quand tu cries à l'Éternel, quand tu es dans le fond du trou, sache qu'il entend. Quand ta famille passe par des moments compliqués et que tu cries à l'Éternel, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui entend. Comme Anne, Dieu a entendu ses larmes. Même si elle ne parlait pas, mais il a entendu le cri du cœur. Et l'Éternel l'a sauvé de son malheur. Il l'a rendu fertile. De stérile qu'elle était, elle a pu donner la vie. Et le petit Shmuel est venu. Et que le nom de Dieu soit béni. Psaume 145, versets 8 à 9, nous dit ceci, j'ai bientôt terminé. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Est-ce qu'on peut le dire ce soir? Mon Dieu est miséricordieux et il est compatissant. Il est lent à la colère et plein de bonté. Alléluia. On peut le proclamer ensemble. Et l'Éternel est bon envers tous. Et ce soir, je peux dire l'Éternel est bon envers moi. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et je me rappelle, quand on parle de compassion, on voit une personne, Jésus. Lorsqu'il voyait la foule, qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il était ému, remis en lui-même de compassion. Ses tripes étaient remuées. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et quand il était remis en lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Il apportait la guérison. Et tous ceux qui avaient un besoin venaient vers lui et chacun repartait avec les besoins comblés. Alléluia. Jésus ne passait pas à côté de ceux qui étaient dans la détresse. Il était celui qui s'arrêtait, prenait le temps et répondait aux besoins. Et mes amis, réalisons ce soir que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous dit ce soir, Willy, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Et Willy, je suis avec toi qu'avec toi seul. Non, il ne dit pas ça le Seigneur. Avec chacun d'entre nous ce soir. Il nous rappelle ce soir qu'il est avec toi. Il est avec nous. Et je termine. Les bontés de l'Éternel se renouvelaient chaque matin comme la manne dans le désert. Amen. Dieu pourvoyait dans le désert chaque jour aux besoins du peuple. Les Hébreux ne pouvaient pas stocker la manne. C'était interdit. Hormis Shabbat, Dieu faisait pleuvoir un peu plus de manne. Mais c'était interdit de stocker. Il fallait s'attendre à chaque provision de chaque jour. C'était l'apprentissage que Dieu donnait au peuple. Et frères et sœurs, de même, les bontés de l'Éternel, on ne peut pas les stocker. Si on les stocke, elles seront plus bonnes. Elles seront périmées, elles seront rassies. Mais on doit réaliser que chaque matin, Dieu fait pleuvoir ses bontés sur nos vies, sur nos foyers, nos familles, sur notre église. Elles se renouvellent chaque matin. C'est frais. Dieu fait tomber ses bontés, en tout cas, renouvelle ses bontés, ration suffisante pour chacun d'entre nous. Et en cela, les besoins de chacun sont comblés, et même au-delà. Et il terminera ceci, son passage, Jérémie disa, « Oh, que ta fidélité est grande !» Et frères et sœurs, malgré ses faiblesses, malgré mes erreurs, malgré mes faiblesses et mes erreurs, malgré mes découragements, mes doutes, et mes infidélités peut-être parfois, combien des fois, frères et sœurs, on est infidèles. On a des manquements, on aime Dieu, mais des fois, il y a un péché qui nous... une tentation, hein. Il y a un petit vice qui est là, et on a du mal à s'en défaire. Mais on aime Dieu quand même. Hein. Parfois, on n'est pas digne, on ne s'en sent pas digne devant Dieu. On a des manquements à l'égard de Dieu. Mais ce soir, la parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Timothée 2, verset 13. Si tu es infidèle ce soir, enlève la culpabilité. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Crie à lui, mais sache que lui demeure fidèle. Et alors que Jérémie, à un moment donné, commençait à être infidèle parce que son cœur s'était détourné de Dieu, et peut-être qu'il pensait à des choses, des pensées de mort venaient, l'accaparaient, mais il réalise ce soir que s'il demeure infidèle, que son Dieu demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Alors frères et sœurs, réalisons ce soir que notre Dieu est fidèle. Sa fidélité est constante, immuable, elle ne bouge pas de iota. La fidélité de Dieu m'invite ce soir à être également fidèle en retour. Et je termine, il dira ceci, que l'Éternel est bon et qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Jérémie dira, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Et frères et sœurs, c'est important que dans ce qu'on vit, de ne pas perdre l'espoir. L'espérance est la force du croyant. Si on n'a plus d'espérance, frères et sœurs, comment on peut faire pour avancer ? Si l'espérance que Dieu nous a donnée, les situations nous l'ôtent, comment on peut faire pour avancer? Et Jérémie va dire, voilà ce que je veux. Je veux espérer en lui, en l'Éternel. Jérémie a compris qu'il a autorité sur son âme. Et mon frère, ma soeur, ce soir, réalise que tu as autorité sur ton âme. Et s'il y a une chose que tu dois retenir ce soir, c'est que tu as autorité sur ton âme. Et qu'il doit en prendre le contrôle. Et mon frère, ma soeur, je voudrais que nous puissions parvenir à cet état d'homme et de femme fait, mature. Et quand ça va mal dans ma vie, je puisse appeler le pasteur. Oui, c'est un bon réflexe. Mais à un moment donné, frères et sœurs, prenons autorité. Et comme Jérémie ce soir, prenons le contrôle avec la force que donne le Saint-Esprit. Il doit emmener son âme à se soumettre à Dieu et à lui obéir. Et combien de fois l'ennemi dans notre âme vient à l'oreille susurrer des choses, des mensonges. Mais Jérémie va faire taire la chair. Et en tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, on amène à faire taire la chair. L'Éternel est son bien et son tout, dira Jérémie, et il fait le choix de mettre en lui toute sa confiance, car c'est le choix gagnant. Et Jérémie dira ceci, au fond du gouffre, et comme Jérémie pour mon Dieu ce soir, Seigneur, donne-moi ce déclic. Donne-moi de repasser dans mon cœur que les nombreuses bénédictions que j'ai eues par le passé, les nombreuses fois où tu m'as délivré de la fosse, les nombreuses fois où tu m'as délivré, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Seigneur, je veux me rappeler dans mon âme les nombreuses fois où tu as ouvert la mer Rouge en deux devant moi. Tu as créé un chemin alors qu'il n'y avait pas d'issue. Et je veux me rappeler ce soir de cette parole du prophète Samuel, 1 Samuel 7, verset 12. Qui dira ceci, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Ça veut dire que si l'Éternel l'a fait dans le passé, si Dieu m'a délivré par le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Et frères et sœurs, dans ma situation, je veux me rappeler que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Et s'il l'a fait par le passé, c'est qu'il peut le faire encore ce soir pour moi. Et il le fera encore demain, parce qu'il est Dieu. Et qu'est-ce qu'il est au-dessus de toute situation? Parce qu'il est souverain. Oui, et Jérémie va nous apprendre ce soir, et pour terminer, qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Jusqu'ici, il m'a secouru, c'est vrai. Et ma place, et ce que Dieu attend de moi, c'est que je reste dans le calme et dans la confiance, dans le repos de la foi. Le silence n'est pas une preuve de faiblesse, mais nous apprend à soumettre notre volonté à la souveraineté de Dieu. Nous apprenons à faire taire la chair et toutes les autres bruits pour entendre le son doux, murmure léger du Saint-Esprit. Et ce soir, que Dieu nous bénisse. Peut-être prendre le temps, après le Seigneur, avec ce qu'on a entendu ce soir. Seigneur, je sais, je ne connais pas la vie de chacun, toi tu la connais. Et tu vois le message que tu as mis sur mon cœur, je l'ai partagé librement, Seigneur. Je veux te prier maintenant que cette parole soit accompagnée de l'action du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que cette parole soit accompagnée de l'action du Saint-Esprit maintenant. Tu connais les besoins qu'il y a dans ce lieu, Seigneur. Peut-être que dans ce lieu, il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui aiment Dieu de tout leur cœur. Et que ce soir, ils passent par la vallée des pleurs, la vallée de Baca, la vallée du découragement. Peut-être que certains sont dans la vallée de l'ombre de la mort ce soir. Il y a des nombres fumés, d'obscurité épaisse autour de nos vies. Mais ce soir, je vais croire que tu es le Dieu de la victoire. Ce soir, je vais croire qu'il y a une victoire à saisir, dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, ce soir, quand le malheureux crie à toi, et tu dis que tu entends et tu le délivres de tous ses frères, ta parole est la vérité, ce soir on veut la mettre en pratique. Alors mon frère, ma soeur, ce soir, simplement avec ce qu'on a entendu ce soir, si tu passes par un moment difficile, tu es dans le creux de la vague, dans la vallée de découragement, tu es dans le doute, cette parole elle est pour toi ce soir. Je voudrais t'inviter ce soir à réaliser que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et il n'y a pas de honte ce soir à réaliser qu'on peut connaître des temps de découragement. Alors ce soir, on va prendre le temps, on va prier, on va crier à Dieu ensemble. Et que Dieu te visite, vide son peuple ce soir, son église ce soir soit renouvelée dans la vie de l'Esprit. Que ce soir qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait un rafraîchissement de la part de Dieu. Oh Seigneur, ce soir, tu agis avec puissance. Que celui qui est faible dise « Je suis fort dans la présence de mon Dieu ». Que celui qui manque des forces ce soir reprenne des forces dans ce lieu. Lorsque Dieu est là, il agit dans ce lieu.